Bonjour Valérie Rabault.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de RFI. 101 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année. Le gouvernement lance aujourd'hui un Grenelle contre les violences conjugales. Des associations, des forces de l'ordre, des magistrats y participent. Le Premier ministre doit faire des annonces cet après-midi. Est-ce que vous soutenez cette démarche ?
Alors oui, je la soutiens. Parce que aujourd'hui, la politique qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes est répartie entre plusieurs ministères. Et donc, vous savez très bien que quand c'est réparti, plus personne ne se sent responsable ou en tout cas comptable du résultat. Et on voit, par exemple, si je prends juste le 3919, qui est le numéro d'appel à faire par les femmes qui subissent ces violences, on voit que un quart des appels aujourd'hui, ça figure dans les documents budgétaires qui nous sont remis, mais qui sont pas forcément souvent lus, un quart des appels n'est pas traité. Donc ça veut dire que vous avez un quart des femmes ou des appels qui sont aujourd'hui, qui existent, qui ne font pas l'objet d'un traitement, d'un suivi. Et ça, c'est très grave. Donc je pense que qu'il y ait une recentralisation avec véritablement à la fois des moyens et un suivi, mais un suivi qui soit sérieux, ça c'est très bien. J'espère que c'est ça qui est au cœur du Grenelle et j'espère que des actions concrètes vont déboucher. Il y a la question du suivi, il y a la question des moyens. Donc là aussi, l'heure de vérité, ce sera pas aujourd'hui avec le Grenelle qui est lancé, ce sera au moment de la loi de finances, où on voit bien que les moyens depuis 2017 ont baissé. Les moyens financiers. S'il y a une inflexion, ce sera très bien. Si le gouvernement poursuit sur sa trajectoire de 2017, ça veut dire que c'est que de la com.
Ouais, vous craignez pas une opération de communication pour l'instant.
Mais je laisse le bénéfice à la démarche qui est engagée, qui, si elle va jusqu'au bout, sera bien. Mais encore une fois, moi j'ai beaucoup vu depuis 2 ans, il y a les paroles et les actes qui parfois ne sont pas totalement en conformité. Et sur ce point-là, on a vu depuis 2017 une baisse des moyens financiers accordé par le gouvernement à tout ce soutien de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc s'il y a une inversion de cette tendance-là, écoutez, ce sera déjà un premier pas.
Le gouvernement d'Édouard Philippe qui doit s'élargir, Jean-Paul Delevoye, elle doit faire son entrée au gouvernement dans les prochains jours. C'est lui qui a rédigé le projet de réforme des retraites qui est sur la table. Est-ce que c'est le bon casting ?
Bon, je veux pas commenter le casting qui sera décidé par le Premier ministre et le Président de la République. Jean-Paul Delevoye a remis une proposition. Ça ne veut pas dire que ce sera le projet de loi qui nous sera remis. Il y a beaucoup de choses qui sont mises sur la table et beaucoup de questions qui demeurent en suspens. Typiquement, si vous avez 1000 points retraite dans votre porte-monnaie retraite, ça ne veut pas dire que vous ne connaissez la valeur de la retraite que vous aurez. Tout simplement parce que le gouvernement, à ce stade, n'a fixé aucun mécanisme pour la revalorisation du point. Donc si votre point vaut 1 euro, vous aurez 1000 euros. Mais si un jour quelqu'un décide de le faire passer à 50 centimes, vous n'aurez plus que 500 euros. Donc vous voyez bien que cette question-là, elle est cruciale. Et pour le moment, il y a silence radio sur ce sujet.
Silence radio, mais une grande concertation est annoncée avec les Français par Emmanuel Macron. Vous y croyez, vous, à cette grande concertation ?
Alors, c'est toujours bien de débattre avec les Français. Là-dessus, il y a vraiment aucune question sur ce sujet. En revanche, moi, je jugerai sur le texte que remettra le gouvernement. J'ai vu beaucoup, je le redis, j'ai vu beaucoup d'effets d'annonce. Et puis après, quand on voit les textes qui nous sont proposés au Parlement, ils sont parfois contraires à ces annonces. Donc, que la concertation ait lieu, c'est très bien. Encore une fois, à ce stade, il y a beaucoup de questions qui demeurent. Je vois que le gouvernement, enfin en tout cas le président de la République, a tenté de faire marche arrière sur l'âge de départ à la retraite, où on nous a dit c'est 62 ans, mais l'âge pivot, c'est-à-dire qui vous permet d'avoir une retraite pleine, c'est 64 ans. Finalement, il dit ce sera peut-être plus ça. Vous voyez bien qu'il y a trop de questions en suspens. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on sera très vigilants.
Vous serez à Avignon cette semaine pour les journées parlementaires du Parti Socialiste. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de François Hollande, y sera jeudi. Il prononcera un discours, le seul. Est-ce que c'est lui aujourd'hui l'homme providentiel du PS ?
Mais on n'est pas dans une recherche d'homme providentiel ou de femme providentielle. On a fait 6% aux 2 dernières élections, en 2017 et 2019. Ce qui est très mauvais et ce qui surtout, à mon avis, pour la France, ne pas avoir un parti social-démocrate, socialiste fort, on voit bien, à mon sens, n'est pas très bon. Donc la priorité des priorités, c'est d'avoir une démarche de construction autour vous avez peut-être envie de savoir ce que pensent les socialistes sur les retraites, sur la transition énergétique, sur la loi bioéthique.
Il faut porter ces projets, il faut un visage.
Oui, il faut un visage, il en faut plusieurs. Et Bernard Cazeneuve est celui qui n'est pas quelqu'un qui se met en avant, qui recherche la petite phrase, qui veut faire du buzz sur des propos parfois un peu polémiques. C'est pas son genre. Là, il vient à notre invitation, donc il a accepté et je le remercie. Il vient pour porter, il se dit voilà moi comment je vois l'avenir de la gauche, l'avenir de la social-démocratie et quels sont les sujets prioritaires sur lesquels il doit y avoir des propositions et quelles sont mes propositions. C'est une démarche de fond. Alors je sais que ça fait peut-être moins vendre de papier parce que c'est pas la petite phrase, c'est pas les socialistes se battent entre eux, c'est pas un tel a dit tel truc sur un tel. Non, c'est vraiment du fond et je pense que c'est indispensable, même si c'est plus une construction de long terme, qui est moins dans l'actualité de la petite phrase.
Valérie Rabault, est-ce que vous faites partie de ces socialistes qui le poussent, l'encouragent à prendre plus de place dans le débat politique aujourd'hui ?
Je fais partie de ces socialistes qui se positionnent sur le fond. Et Bernard Cazeneuve entre, en tout cas, fait partie de cette dynamique-là. Donc, évidemment, moi, je serais très heureuse de travailler avec lui sur cette démarche-là.
Quand vous voyez venir le duel entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani, deux marcheurs historiques pour les municipales à Paris, vous vous dites, c'est bon pour nous, les socialistes à Paris ?
Mais on ne gagne jamais une élection, soit en tapant sur ses adversaires, soit en défendant, il faut promouvoir son bilan, mais il faut aller au-delà. On gagne une élection sur un projet. Vous pouvez faire une statistique sur les X dernières années, vous verrez que c'est le cas. Donc, je les laisse se battre entre eux. Et ce que je pense, c'est que Anne Hidalgo et son équipe ont beaucoup de propositions à faire. Et surtout, notamment, moi, je suis toujours fascinée à Paris par l'exemple des crèches. Vous avez une offre qui dépasse tout ce qui peut exister ailleurs en France. Et j'espère que ce sera vraiment mis à son actif dans le bilan.
Pour les municipales en général en France, est-ce que le Parti socialiste pourra être présent dans un maximum de villes où il faut s'allier d'ores et déjà le plus tôt possible avec les écologistes ou les communistes ?
Mais le Parti socialiste compte 50 000 élus. 50 000, personne ne le dit. Le Parti socialiste est aussi la troisième force au Parlement. Donc il y a 50 000 élus qui tous les jours sont sur le terrain. Tous les jours, dans leur ville, dans les communautés de communes. Et cette force-là, je pense que peu de formations politiques en disposent aujourd'hui. Alors évidemment, elle a été un peu mise à mal parce que quand on prend des mauvais résultats aux élections générales, ça peut fragiliser, en tout cas ça peut avoir une baisse de morale. C'est pas le cas. Là, il y a une véritable... Enfin, en tout cas, nous, on est très mobilisés. Et avoir cette force-là, locale, sur les territoires, je pense que peu en dispose.
Dernière question, Valérie Rabault. Boris Johnson agite la menace d'organiser des élections si le Parlement britannique lui impose un report du Brexit. Vous avez vécu quelques années en Grande-Bretagne. Comment vous voyez les choses ? Que peut faire la France dans une telle crise ?
La France, elle ne peut pas faire de l'ingérence au Royaume-Uni, ça c'est clair. Mais face à une telle dislocation qui est en train de s'opérer sous nos yeux, je pense que la France et l'Allemagne et l'Espagne, en tout cas, moi, c'est les trois pays que je vois comme moteurs pour faire une offensive, c'est-à-dire proposer, dire, écoutez, allez-vous battre dans votre coin. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer sur l'Europe. Et je pense qu'on ne peut pas rester spectateur de ce qui est en train de se passer sur la dislocation européenne.
Donc vous dites à Emmanuel Macron...
Je dis à Emmanuel Macron, appelez Angela Merkel et Pedro Sanchez. Et là, il faut vraiment avancer. Vous savez, il y a personne à parler de ce qui s'est passé cet été où on a des taux d'intérêt négatifs. Le ministre est content parce qu'il va payer moins cher les prêts qu'il fait. Mais ça signifie que c'est un no future économique. Et bien ça, là-dessus, quand on voit ça, on dit, on met un plan d'investissement béton sur la table.
Merci Valérie Rabault d'avoir été notre invitée ce matin.